Faire un monde libéral.
Histoire de la liberté par David Boaz, traduit par Stéphane Gérès et Thomas Ennis, 2012. Un podcast de l'Institut Copé, lu par Philippe Seigneur. Retrouvez nos podcasts sur l'École française d'économie politique et sa tradition sur notre site www.institutcopé.org. Copé, COPET. À bientôt.
Faire un monde libéral. Comme pour la Révolution anglaise, la période qui a conduit à la Révolution américaine fut une époque de grands débats idéologiques. Plus encore que le monde anglais du XVIIe siècle, le climat de l'opinion américaine du XVIIIe siècle était dominé par les idées libérales. En effet, on pourrait dire qu'il n'y avait pratiquement pas d'idées non libérales circulant en Amérique. Il n'y avait que des libéraux conservateurs qui demandaient instamment que les Américains continuent à réclamer pacifiquement leurs droits en tant qu'Anglais, et des libéraux radicaux qui finalement rejetèrent jusqu'à une monarchie constitutionnelle et demandaient l'indépendance. Le plus mobilisateur des libéraux radicaux était Thomas Paine. Paine était ce qu'on pourrait appeler un agitateur extérieur, un missionnaire itinérant de la liberté. Né en Angleterre, il alla en Amérique pour aider à faire la Révolution, et lorsque sa tâche fut terminée, il traversa de nouveau l'Atlantique pour aider les Français à faire la leur. Société contre gouvernement. La grande contribution de Paine à la cause révolutionnaire fut son pamphlet « Le sens commun », qu'on dit s'être vendu à quelques 100 000 exemplaires en quelques mois dans un pays de 3 millions d'habitants. Tout le monde le lut. Ceux qui ne savaient pas lire l'ont entendu lire dans les tavernes et ont participé à débattre de ses idées. Le sens commun n'était pas seulement un appel à l'indépendance, il offrait une théorie radicalement libertarienne pour justifier les droits naturels et l'indépendance. Paine commença par une distinction entre société et gouvernement. La société est le résultat de nos besoins, le gouvernement est celui de notre perversité. L'état social est un bien sous toutes les hypothèses. Le gouvernement, dans sa perfection même, n'est qu'un mal nécessaire. Dans son imperfection, c'est un mal insupportable. Il poursuivit en dénonçant les origines de la monarchie. S'il nous était donné de lever le voile ténébreux de l'Antiquité, nous trouverions que le premier d'entre eux ne valait guère mieux que le principal brigand d'une troupe effrénée, dont les mœurs sauvages ou la prééminence en fait de subtilité lui obtinrent le titre de chef parmi les voleurs. Dans le sens commun et dans ses écrits ultérieurs, Paine conçut l'idée que la société civile existe avant le gouvernement, et que les gens peuvent tranquillement interagir pour créer un ordre spontané. Sa croyance en l'ordre spontané fut renforcée quand il vit la société continuer à fonctionner après que les gouvernements coloniaux furent chassés des villes et des colonies américaines.
Dans ses écrits, il fusionna élégamment la théorie normative des droits individuels et l'analyse positive de l'ordre spontané.
Bien sûr, ni le sens commun ni la publication d'Adam Smith de La richesse des nations ne furent les seules étapes de la lutte pour la liberté qui intervint en 1776. Aucune ne pouvait même être la marque la plus importante de cette année phare. Car en 1776, les colonies américaines publièrent leur déclaration d'indépendance, sans doute le plus bel exemple d'écriture libertarienne de l'histoire. Les mots éloquents de Thomas Jefferson proclamèrent au monde entier la vision libérale. Nous tenons ces vérités comme allant d'elles-mêmes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir. L'influence des Niveleurs et de John Locke est évidente. Jefferson pose brièvement trois idées. Que les gens ont des droits naturels, que le but du gouvernement est de protéger ses droits, et que si le gouvernement dépasse son propre but, les gens ont le droit de le changer ou de l'abolir. Du fait de son éloquence à affirmer la cause libérale et pour son rôle toute sa vie envers la révolution libérale qui changea le monde, le chroniqueur George Will nomma Jefferson l'homme du millénaire. Mais il convient de noter que par l'écriture de la Déclaration d'indépendance, Jefferson n'a pas vraiment inventé la roue. John Adams, peut-être jaloux de l'attention obtenue par Jefferson, déclara quelques années plus tard qu'il n'est pas une idée dans la déclaration qui n'ait été rebattue au Congrès durant les 2 années précédentes. Jefferson lui-même dit que s'il n'a consulté ni livre ni pamphlet pour l'écrire, son but n'était pas de découvrir de nouveaux principes ni de nouveaux arguments, mais simplement de produire une expression de l'esprit américain. Les idées portées par la déclaration étaient, a-t-il dit, les sentiments du moment, qu'ils soient exprimés en conversation, en lettres, dans des essais publiés ou dans les livres élémentaires de droit public. Le triomphe des idées libérales aux États-Unis fut écrasant. Limiter le gouvernement. Après leur victoire militaire, les Américains, indépendants, s'empressèrent de mettre en pratique les idées que les libéraux anglais avaient élaborées tout au long du XVIIIe siècle. Bernard Belin, éminent historien de l'université de Harvard, dit que les principaux thèmes du libéralisme radical du XVIIIe siècle furent concrétisés ici. Le premier est la croyance que le pouvoir est mal, une nécessité peut-être, mais une nécessité mauvaise, qu'il est infiniment corrupteur et qu'il doit être maîtrisé, limité, restreint par tous les moyens compatibles avec un minimum d'ordre civil. Les constitutions écrites, la séparation des pouvoirs, les déclarations de droit, les limitations de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, les restrictions sur le droit de contraindre et de se lancer en guerre, tout exprime la profonde méfiance envers le pouvoir, laquelle se trouve au cœur idéologique de la Révolution américaine, méfiance restée en nous comme un héritage permanent et pour toujours. La Constitution des États-Unis s'est construite sur les idées de la Déclaration voulant établir un gouvernement adapté à un peuple libre. Elle était basée sur le principe que les individus ont des droits naturels qui prévalent sur la mise en place d'un gouvernement et que tout le pouvoir dont dispose le gouvernement lui est délégué par des individus pour la protection de leurs droits. Sur la base de cette conception, les Framers ne mirent pas en place une monarchie, pas plus qu'ils créèrent une démocratie sans limite, un gouvernement de plein pouvoir limité seulement par le vote populaire. Au contraire, ils énumérèrent minutieusement, à l'article 1er, section 8, les pouvoirs qu'aurait le gouvernement fédéral. La Constitution, dont le plus grand théoricien et architecte était l'ami et voisin de Jefferson, James Madison, était vraiment révolutionnaire du fait de l'établissement d'un gouvernement au pouvoir délégué, inventorié et donc limité. La première fois qu'une déclaration des droits fut proposée, bien des Framers répondirent qu'elle n'était pas nécessaire parce que les pouvoirs inventoriés étaient si limités que le gouvernement serait incapable d'attenter aux droits individuels. Finalement, on décida d'ajouter une déclaration des droits, selon les mots de Madison, pour une plus grande prudence. Après avoir énuméré des droits spécifiques dans les 8 premiers amendements, le premier Congrès en ajouta 2 autres qui résument toute la structure du gouvernement fédéral ainsi qu'il était créé. Le 9e amendement dispose que l'énumération dans la Constitution de certains droits ne doit pas être interprétée comme niant ou minimisant l'existence d'autres droits conservés par le peuple. Le 10e amendement dit « Les pouvoirs non délégués aux États par la Constitution, ni interdits par elle aux États, sont réservés respectivement aux États ou au peuple. » Encore une fois, les principes fondamentaux du libéralisme, les gens possèdent des droits avant qu'ils ne créent de gouvernement et ils conservent tous les droits qu'ils n'ont pas expressément délégués au gouvernement, et le gouvernement national n'a aucun pouvoir non expressément accordé par la Constitution. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, le siècle suivant la Révolution américaine fut marqué par la diffusion du libéralisme. Les constitutions écrites et les déclarations de droit ont protégé la liberté et garanti la primauté du droit. Les corporations et les monopoles étaient en grande partie éliminés, avec tous les métiers ouverts à la concurrence sur la base du mérite. la liberté de la presse et de la religion fut considérablement élargie, les droits de propriété rendus plus sûrs, le commerce international libéré. Liberté civile. L'individualisme, les droits naturels et les marchés libres ont logiquement conduit à une effervescence pour l'extension des droits civils et politiques à ceux qui avaient été exclus de la liberté comme ils l'avaient été du pouvoir, notamment les esclaves, les serfs et les femmes. La première association anti-esclavagiste au monde fut fondée à Philadelphie en 1775, et l'esclavage et le servage furent abolis dans l'ensemble du monde occidental en moins d'un siècle. Au cours du débat au Parlement britannique sur l'idée de compenser les esclavagistes pour leur perte de propriété, le libéral Benjamin Pearson a répondu qu'il aurait pensé que c'était aux esclaves de devoir être indemnisés. The Pennsylvania Journal appartenant à Thomas Paine publia une des premières défenses remuantes des droits des femmes en 1775.
Mary Wollstonecraft, une amie de Paine et d'autres libéraux, publia une affirmation des droits de la femme, Vindication of the Rights of Women, en Angleterre en 1792.
La première convention féministe aux États-Unis eut lieu en 1848, alors que les femmes commençaient à exiger les droits naturels que les hommes blancs avaient réclamés en 1776 et qu'on exigeait également pour les hommes noirs. Selon la phrase de l'historien anglais Henry Sumner, le monde passait d'une société de statut à une société de contrat. Les libéraux s'attaquèrent également au fléau séculaire de la guerre. En Angleterre, Richard Cobden et John Bright ont inlassablement soutenu que le libre-échange lie pacifiquement les gens de différentes nations ensemble, réduisant ainsi les risques de guerre. Les nouvelles limites au gouvernement et un plus grand scepticisme du public envers les dirigeants politiques leur rendirent plus difficile de s'aventurer à l'étranger et de partir en guerre. Après la tourmente de la Révolution française et la défaite finale de Napoléon en 1815, et à l'exception de la guerre de Crimée et des guerres d'unification nationale, la plupart des peuples d'Europe connurent un siècle de paix relative et de progrès. Les effets du libéralisme. Cette libération de la créativité humaine créa un progrès scientifique et matériel phénoménal. Le magazine The Nation, qui était alors un journal vraiment libéral en se replaçant vers 1900, écrivit « Libéré de l'ingérence avilissante des gouvernements, les hommes se consacrèrent à leurs tâches naturelles, l'amélioration de leurs conditions, avec les résultats merveilleux qui nous entourent. Les avancées technologiques du XIXe siècle libéral sont innombrables. La machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone, l'électricité, le moteur à combustion interne. Grâce à l'accumulation du capital et au miracle de l'intérêt composé, en Europe et en Amérique, les grandes masses populaires commencèrent à se libérer du labeur éreintant qui était la condition naturelle de l'humanité depuis des temps immémoriaux. La mortalité infantile chuta, et l'espérance de vie commença à croître vers des niveaux sans précédent. Une personne de 1800 regardant vers le passé y verra un monde qui, pour la plupart des gens, avait peu changé sur des milliers d'années. En 1900, le monde était méconnaissable. La pensée libérale a continué à se développer tout au long du XIXe siècle. Jeremy Bentham a défendu la théorie de l'utilitarisme. L'idée que le gouvernement devrait favoriser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Bien que ces prémices philosophiques fussent différentes de celles des droits naturels, pour l'essentiel il en est arrivé aux mêmes conclusions sur le gouvernement limité et les marchés libres. Alexis de Tocqueville vint en Amérique pour voir comment une société libre fonctionne et publia ses brillantes observations dans « De la démocratie en Amérique » entre 1834 et 1840. John Mill publia « De la liberté », un argumentaire fort pour la liberté individuelle, en 1859. En 1851, Herbert Spencer, un immense érudit dont le travail est injustement négligé et aujourd'hui souvent déformé, publia la statique sociale dans lequel il exposa sa loi d'égale liberté, une déclaration précoce et explicite du credo libéral moderne. Le principe de Spencer était que tout homme peut revendiquer la pleine liberté d'exercer ses facultés compatibles avec la possession de la même liberté par tout autre homme. Spencer souligna que la loi d'égale liberté s'applique évidemment à l'ensemble de la race, aux femmes aussi bien qu'aux hommes. Il a également étendu la critique libérale classique de la guerre pour distinguer entre deux types de sociétés. La société industrielle, où les gens produisent et commercialisent de manière pacifique et en association volontaire, et la société militante, dans laquelle la guerre prévaut et le gouvernement contrôle la vie de ses sujets comme moyen de ses propres fins. Durant son âge d'or, l'Allemagne produisit de grands écrivains, tels Goethe et Schiller, qui étaient libéraux. Et elle contribua à la philosophie libérale avec la pensée de philosophes et d'érudits comme Emmanuel Kant et Wilhelm von Humboldt. L'œuvre de Kant soulignait l'autonomie individuelle et tentait de fonder les droits et libertés individuelles dans les exigences de la raison elle-même. Il appela à une constitution juridique qui garantit à chacun sa liberté par la loi, de sorte que chacun reste libre de chercher son bonheur de la manière qu'il juge la meilleure, pourvu qu'il ne viole pas la liberté légale ni les droits de ses concitoyens. Dans l'ouvrage classique de von Humboldt, Essai sur les limites de l'action de l'État, qui a fortement influencé De la liberté de Mille, il soutint que le plein épanouissement de l'individu exige non seulement la liberté, mais une multiplicité de situations, voulant dire par là que les gens devraient avoir à leur disposition une grande variété de situations et de modes de vie. Le terme moderne pourrait être mode de vie alternatif, qu'ils pourraient continuellement tester et choisir. En France, Benjamin Constant fut le libéral le plus connu sur le continent durant la première partie du siècle. Il aimait la liberté comme d'autres hommes aiment le pouvoir, dit un contemporain. Comme von Humboldt, il voyait la liberté comme un système dans lequel les gens pourraient mieux découvrir et développer leur personnalité et intérêts propres. Dans un essai important, il opposa le sens de la liberté dans les anciennes républiques, une participation égale à la vie publique, avec la liberté moderne, les libertés individuelles de parler, écrire, posséder des biens, commercer et poursuivre ses intérêts privés. Une proche de Constant était Madame de Staël, romancière, peut-être surtout connue pour la phrase « La liberté est ancienne, c'est le despotisme qui est nouveau », en référence à la tentative des absolutistes royaux de supprimer les libertés à charte durement gagnées et accordées au Moyen Âge. Un autre libéral français, Frédéric Bastiat, siégea au Parlement comme passionné du libre-échange et a écrit une multitude d'essais percutants et pleins d'esprit, attaquant l'État et toutes ses actions. Son dernier essai, Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, exposa avec une grande clairvoyance que quoi qu'un gouvernement fasse, construire un pont, subventionner les arts, verser des pensions, cela a des effets négatifs induits, invisibles directement, mais qu'on peut avec perspicacité rendre simples et évidents. L'argent circulant, des emplois étant créés, les gens pensent que le gouvernement a généré de la croissance économique. Mais la tâche de l'économiste est de voir ce qui n'est pas si facile à voir. Des maisons ne sont pas construites, des vêtements ne sont pas achetés. Des emplois non créés du fait de taxes retirant de l'argent à ceux qui l'auraient dépensé en leur nom propre. Dans la loi, il attaqua le concept de spoliation légale selon laquelle certains en appellent au gouvernement pour s'approprier ce que d'autres ont produit. Et dans la pétition des fabricants de chandelles contre la concurrence du soleil, il se moqua des industriels français qui voulaient être protégés de la concurrence en faisant semblant de parler au nom des fabricants de chandelles lesquels voulaient que le Parlement bloque les rayons du soleil à cause desquels les gens n'avaient pas besoin de bougies pendant la journée. Une des premières réfutations des lois anti-dumping. Aux États-Unis, le mouvement abolitionniste fut naturellement conduit par les libertariens. Les principaux abolitionnistes appelaient l'esclavage « vol d'homme », en cela qu'ils cherchent à nier la propriété de soi et à voler le soi profond d'un homme. Leurs arguments sont analogues à ceux des Niveleurs et de John Locke. William Garrison a écrit que son but n'était pas la seule abolition de l'esclavage, mais l'émancipation de notre race entière de la domination de l'homme, de la servitude de soi, du gouvernement par la violence. Un autre abolitionniste, Lysander Spooner, à partir de l'argument des droits naturels contre l'esclavage, arriva à la conclusion que personne ne pouvait être réputé avoir renoncé à un quelconque de ses droits naturels au titre de quelque contrat que ce soit, fût-ce la Constitution, qu'il n'ait personnellement signé celui-ci. Frédéric Douglas avança également ses arguments en faveur de l'abolition selon les termes du libéralisme classique, autopropriété et droit naturel.